On n'est pas des Einstein. On n'est pas des Einstein.
Eh bien, bien le bonjour, il est 9h15 du matin à peu près, donc j'espère que vous avez pris un bon café. En tout cas, nous, on est chaud, on est parti pour à peu près une trentaine de minutes pour parler science. Et tout d'abord, je vais présenter les chroniqueurs de cette nouvelle émission, donc vous l'aurez compris, hein, on n'est pas des Einstein, mais bon, tout est relatif. Je vais commencer par Louise Fléchère, ici présente, qui
bonjour.
Est, bonjour, ingénieur en aérospatial. Nous avons Didier Chavaroche.
Bonjour.
Ingénieur photovoltaïque, si je ne m'abuse, et moi-même,
Florent Bourlette,
vous l'aurez compris, professeur en SVT, sciences de la vie et de la Terre, et pas sciences et vie de la Terre, comme j'en entends dire bien trop souvent. Sciences et vie, c'est un magazine, hein, c'est pas une science. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de l'espace, on va parler du climat, on va parler des nouveautés, on va parler de l'actu du mois de septembre et des débuts octobre, et on va parler high-tech, on va parler un petit peu d'esprit geek et jeux vidéo. Et le dossier de cette émission se portera sur notre nouvelle chroniqueuse, puisque avec Didier, on est deux anciens, entre guillemets, puisqu'on avait fait l'émission Il faut au proton il y a 2 ans. Et on accueille donc Louise Fléchère cette année pour ce premier épisode, nouvelle chroniqueuse, ingénieure aérospatiale, et qui pourra nous raconter sa vie un petit peu. Vous allez voir, c'est passionnant.
Pour certains.
Bref, donc, on va commencer par l'actu planète. Et on commence par une news, une actu qui concerne la rotation de la Terre et le climat. Apparemment, la rotation de la Terre serait affectée par le climat et la géodynamique. Alors, on va définir très rapidement, mais en tout cas, c'est deux chercheurs qui ont publié dans Global on Planetary Change en ce mois de septembre. Alors, d'une part, le climat affecterait ce qui s'appelle la précession de notre planète, c'est-à-dire le mouvement de l'axe de rotation de la Terre, puisque la Terre tourne sur elle-même et son axe de rotation peut bouger légèrement au fur et à mesure du temps. Donc on savait déjà que ce paramètre influençait le climat sur de longues périodes. C'est ce qu'on appelle le cycle de Milankovitch, c'est un des paramètres. Mais l'inverse était inconnu. Donc apparemment, ce serait l'absence de calottes glaciaires et des températures très élevées qui seraient la cause de ce phénomène. Alors attention, pour identifier ces paramètres, les scientifiques se sont penchés sur une période bien précise où les données observées ne concordaient pas vraiment avec les modèles théoriques. Et c'était il y a 55 millions d'années. Et d'autre part, il semblerait que des paramètres géodynamiques auraient influencé la précession, vous savez, le changement de l'axe, à savoir une modification des effets de marée due à la collision entre l'Inde et l'Asie, et une accélération également de l'expansion des fonds océaniques. Pour rappel, il y a 55 millions d'années, l'Inde a foncé dans l'Asie et a formé ce qui s'appelle aujourd'hui l'Himalaya. Donc en fait, cette étude, elle montre que par le passé, la dynamique terrestre, donc qu'elle soit climatique ou interne, a pu influencer la rotation de la Terre. Donc de grands bouleversements climatiques pourraient de nouveau modifier la rotation à l'avenir et peut-être ralentir notre planète, qui sait. Alors, en parlant de climat, il y a des scientifiques qui ont eu l'idée farfelu de refroidir les pôles. Une idée saugrenue qui serait plutôt bel et bien possible, et ce en injectant dans l'air des millions de tonnes de particules aérosols, donc du dioxyde de soufre, depuis un avion. On expulse tout ça dans l'air, et en fait, ce qui se passe, c'est que ça a pour effet de cacher le rayonnement solaire à la manière d'un immense parasol. Donc l'idée, c'est de faire un grand parasol, de cacher le soleil, et de refroidir le pôle nord et le pôle sud. Ça permettrait d'abaisser la température des pôles de 2 degrés par an. Mais bon, il y a un grand mais quand même, ça reviendrait à se mettre donc des œillères, hein, tout simplement, des œillères, et d'ignorer le problème à la source. Et de plus, camoufler les rayonnements solaires et donc limiter la quantité de soleil, hein, tout simplement, aurait un impact non négligeable sur la faune et la flore, mais aussi sur les populations. Donc en fait, hein, c'est une fausse bonne idée, nous disent les climatologues. Et dernière chose, en parlant des climatologues justement, ceux du GIEC. Vous connaissez le GIEC ? le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. On définit ce que l'on appelle des points de basculement, c'est-à-dire des seuils critiques, au-delà desquels un système se réorganise, et souvent brutalement. Eh bien, c'est le cas de la forêt d'Amazonie. En fait, il semblerait que cette forêt ait atteint un point de non-retour, à en croire le rapport du RAISG. Je vais le faire sans accent, mais c'est le Red Amazonica de Informatoa Socioambientella. Certains scientifiques donc disaient encore il y a quelques mois qu'un jour viendrait où cette forêt ne serait plus capable d'entretenir son climat avec des arbres moins imposants, une biodiversité plus pauvre, une capacité de stockage de carbone amoindrie. Eh bien, il semblerait que ce jour est arrivé. Ou alors, il arriverait très bientôt. En tout cas, c'est ce que nous dit ce rapport.
Et les Brésiliens, ils...
Bah, les Brésiliens, bah, depuis la politique de Bolsonaro, c'est de pire en pire, en fait. Hein. Ils coupent l'Amazonie et ils font des coupes
blancs,
ils brûlent
ouais.
tout et voilà, quoi. Donc, voilà, ça, c'était pour les nouveautés, l'actualité, d'un point de vue climatique, hein. On a axé cette actu planète sur le climat, pour cet épisode. Et je vais laisser la parole à Louise. Louise, notre ingénieure aérospatiale qui va nous parler des actus, espace.
Alors, pour l'espace, cette semaine, on parle surtout de l'IAC, l'International Astronautical Congress. L'IAC, c'est le rassemblement des experts du spatial du monde entier, qui a lieu en ce moment à Paris. Donc sur 4 jours, on y retrouve bien évidemment des gens de haut calibre, notre star nationale Thomas Pesquet y est évidemment, mais également 6500 participants au total qui sont là pour partager leurs nouvelles photos 4K de James Webb Télescope prises récemment, qui sont là pour discuter de comment il pleut des diamants sur Neptune et Uranus, et qui sont là aussi également pour parler entre gens de la haute sphère des décisions des instituts tels que l'ESA, la NASA, Roscosmos, qui est l'agence spatiale russe, sur les collaborations internationales qui auront lieu dans les futures années. Dans ces collaborations internationales, il y en a une en particulier qui sort du lot, c'est les missions Artemis. Artemis, ici, ça a un peu un sens parce que c'est la déesse grecque de la nature sauvage et de la chasse. Mais dans le monde du spatial, ça fait référence à plusieurs missions qui sont les descendantes des missions Apollo, que vous avez pu connaître peut-être certains d'entre vous. Eh bien, Artemis, en fait, ce sont les missions qui vont ramener les hommes sur la Lune d'ici 2025. Normalement, le dernier homme qui a marché sur la Lune, c'était en 1972. Donc, plus de 50 ans plus tard, on espère ramener cette fois au moins une femme, avec évidemment toute une équipe, pour remettre le pied sur la Lune. La première mission qui devait être lancée par une énorme fusée SLS en septembre a malheureusement dû être décalée. Au 27 septembre 2022, on aura les yeux dessus et on espère en parler à la prochaine émission. Sinon, pour l'IAC, ça termine le jeudi 22, donc ça c'est terminé à l'heure où vous entendez cette émission. C'est dommage parce que Paris c'était à côté de chez nous. L'année prochaine, c'est à Bakou, en Azerbaïdjan.
Et pour petite précision, je vais faire une petite précision, on enregistre aujourd'hui, donc fin septembre, à l'heure où vous écoutez cette émission, donc le 27 septembre sera déjà passé, donc j'espère que vous n'avez rien raté de la mission Artemis, en tout cas on croise les doigts pour ça. Alors Didier, tu as quelques petites nouveautés, actualités du côté de l'high-tech ?
Oui,
vas-y, raconte-nous.
Eh bien moi, j'ai trouvé une technologie fascinante. Est-ce que vous avez déjà vu sur Facebook ou sur YouTube la vidéo d'un homme qui raconte que l'ADN humain, en fait, représenterait plusieurs kilo-octets de données et qu'en gros, vu le nombre de spermatozoïdes, en fait, une éjaculation représente un flux de données de plusieurs centaines de gigaoctets par seconde.
Il semble en entendre.
Moi, jamais.
Il y a des chercheurs qui ont trouvé le moyen d'enregistrer des données dans de l'ADN. C'est-à-dire, les données informatiques, ce ne sont dans le fond que des 0 et des 1. Eh bien, deux chercheurs, Stéphane Lemaire et Pierre Crozet, en fait, ont réussi à encoder la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et aussi la Déclaration de la femme et de la citoyenne de 1791, dans de l'ADN.
Ah, c'est fou.
Ils ont réalisé qu'ils avaient tout le matériel dans leur laboratoire pour manipuler de l'ADN et pour lire de l'ADN. Et donc, du coup, ils ont inventé un algorithme pour, en fait, numériser la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et en fait, l'encoder, de créer une molécule d'ADN avec les données à l'intérieur.
C'est énorme.
Et oui, c'est une technologie qui intéresse les gens parce que les technologies modernes, les disques durs, etc. En fait, ce sont des technologies qui permettent de stocker les données pour 5-7 ans. Alors que là, par exemple, les deux déclarations ont été encodées. Et en fait, elles sont maintenant à la Bibliothèque nationale, aux Archives nationales. Elles sont bonnes pour 50 000 ans, en fait.
Ah ouais.
Ils ont créé les molécules, ils les ont répliquées et ils les ont, en fait, enfermées dans une capsule. Et ils ont mis la capsule dans les archives.
D'accord. Donc, en utilisant le code génétique, ils utilisent le code génétique comme un
C'est un ça. Langage, ils utilisent, en fait, les bases de l'ADN, les quatre molécules, nucléotides, ouais. Comme 0 et 1, en fait. Et c'est la même technologie.
C'est énormissime.
Ça permettrait, en fait, de stocker les millions de milliards de données qui vont être générées au cours des années futures.
Dans très peu de place, au final. Très peu de place.
Un flacon de la taille d'une gélule, d'une gélule.
Un médicament, quoi.
Comme un médicament, ouais, quoi. Permettrait de stocker jusqu'à 5000 gigaoctets.
5000 gigaoctets. 5 téra de données dans une gélule, quoi.
Dans une gélule, ouais.
C'est fou. La biologie nous réserve encore pas mal de surprises, quand même.
Bah oui, ça, je trouve, c'est une alliance assez parfaite de la.
Ah bah, complètement.
De la biologie et de la technique, quoi.
Et bien, sûr, en parlant d'ADN, eh bien, peut-être que dans le nouveau GTA 6, vous voyez la transition. On pourrait faire des enquêtes à partir de traces ADN. Non, c'est faux, c'est complètement faux. Non, en parlant de GTA 6, donc je fais la petite transition sur les actus geeks. Ce mois-ci, au mois de septembre, donc il y a eu une fuite de GTA 6, donc des images de plusieurs heures de jeu, ouais, de gameplay ont fuité. Alors évidemment, c'est des choses que le jeu n'est pas terminé, hein, et ça a fuité. Donc voilà. Et en plus, il y a un YouTuber qui a fait partie de cette fuite, qui s'est lui-même grillé en parlant sur un forum justement de où fuite tout un tas de données sur les jeux vidéo. Il s'est grillé lui-même en utilisant le mauvais pseudo et il a effacé le truc en quelques secondes. Mais il y a déjà eu des screenshots qui ont été pris et il s'est fait complètement griller. Donc je pense que sa carrière est terminée. Voilà. Et après, en cette fin d'année, on va avoir la sortie du jeu Harry Potter Hogwarts Legacy qui va être énormissime. On a vu des images il y a pas longtemps sur les différentes salles des les différentes écoles d'Harry Potter et ça va être enfin de Poudlard du coup et ça va être vraiment je pense énormissime. Le joueur du grenier a fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus notamment sur Twitch. Voilà, c'était pour les news jeux vidéo du moment. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. Eh bien, maintenant, on va passer au dossier, à notre dossier. Notre dossier du jour, c'est Louise, notre dossier. Notre dossier, donc... eh bien, Louise, le but, c'est de, qu'on puisse te connaître un petit peu, puisque t'es nouvelle sur le... Enfin, nouvelle entre guillemets, puisque, comme je le disais précédemment dans l'interview qu'on a eue sur ABA, Didier et moi, on est un peu, entre guillemets, les anciens, puisqu'il y a le feu au Proton. C'était notre ancienne émission, et puis Louise, donc première fois, premier épisode, et on aimerait bien un petit peu te connaître. Donc tu es ingénieur, aérospatial, et donc d'où viens-tu déjà?
Alors moi, je suis Cantalou, j'aime dire ça parce que en fait tout le reste de mon parcours et de mes racines est assez hétéroclite, c'est-à-dire que j'ai un père sud-africain, j'ai grandi sur la Côte d'Azur, j'ai fait mes études aux États-Unis, j'ai fait mes études à Paris. Donc, y a une seule constante géographique dans ma vie, c'est que tous les étés, depuis que je suis née, je reviens en Auvergne. Aux racines, là d'où vient ma grand-mère.
Donc, t'as beaucoup bougé. Qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton parcours, justement, pour arriver à ingénieur aérospatial?
Donc moi, j'ai un parcours scientifique classique en France, dans le sens où j'étais au lycée en section S et j'étais dans un lycée international. Après le lycée, je suis allée en prépa à Lyon et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'école polytechnique à côté de Paris. Donc c'est une formation semi-militaire. On passe les 6 premiers mois en treillis dans un régiment. Moi, j'étais en Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, on a 2 ans sur le campus d'études d'ingénieur tout à fait général, avec des maths, de la physique, de la chimie, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et ensuite, il y a une dernière année à l'école polytechnique qui s'appelle une année d'application. C'est une année qu'on est obligé de faire dans une autre école. Donc, on n'est plus sur le campus à Palaiseau. Il y a des gens qui restent en France. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller faire ma dernière année à Stanford, aux États-Unis. Et donc, j'ai fait 2 ans de master à Stanford, un master en aéronautique et astronautique, comme on dit là-bas.
D'accord. Stanford, pour rappel, c'est à côté de quelle grande ville?
San Francisco.
San Francisco, sur la côte ouest aux États-Unis, donc en Californie. Eh bien, c'est un sacré parcours quand même. Sacré parcours.
À la sortie de Stanford, j'ai intégré une entreprise qui s'appelle Zipline, qui est une start-up.
Ouais.
Une start-up comme on les connaît aux États-Unis, sauf que celle-là, elle est particulièrement spéciale, puisqu'elle s'occupe de parachuter des produits médicaux avec des drones, comme des avions qu'on voit dans le ciel, sauf qu'il n'y a pas de pilote.
D'accord.
Et dans le cargo de ces avions, il y a des boîtes remplies de sang, de médicaments, de vaccins. Et ces boîtes sont parachutées en Afrique.
D'accord.
On a des opérations, chez Zipline, il y a des opérations au Rwanda et au Ghana, au Japon, aux États-Unis, d'accord. Ils sont partout.
Un peu partout dans le monde. Ok. Et après, tu as débarqué au retour au pays.
Donc j'y ai passé 3 ans. Moi, j'ai une passion depuis toujours pour le spatial. Et j'avais décidé de mettre de côté cette passion pendant mes années à Zipline parce que j'avais reconnu dans cette entreprise, vraiment une entreprise à mission qui avait une équipe formidable et qui travaillait dans des contextes géographiques qui m'intéressaient énormément. Et finalement, après 3 ans, j'ai dit non, ma passion est quand même le cœur de mon âme. Il faut que je retourne au spatial. Mais je me sentais pas d'aller faire n'importe quoi dans le spatial. Pour moi, il fallait que je fasse quelque chose qui avait un sens parce que je quittais une boîte qui avait énormément de sens. Et donc, je me suis dit, il faut que tu prennes du temps pour réfléchir. Et je suis allée là où j'avais le plus de paix d'esprit, dans mes racines, dans le Cantal.
Dans le Cantal.
Donc je me suis installée dans la maison de ma grand-mère et j'ai réfléchi et maintenant je sais ce que je vais faire.
Et donc tu as pour projet, d'après ce que j'ai compris, donc cette fois-ci de créer ta propre entreprise, de voler de tes propres ailes et donc cette fois-ci dans le milieu spatial.
Absolument. En fait, c'est un milieu, celui que je vise, c'est un milieu qui est du domaine de l'exploration spatiale, l'exploration vivante, Je dis pas humaine parce que justement, j'aimerais me concentrer sur toute la partie écosystème dans l'espace. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on envoie des hommes dans la Station Spatiale Internationale, il y a tout un tas de systèmes qui existent, des machines qui sont là pour recycler l'eau, qui sont là pour recycler l'air. En fait, sur Terre, tout ça, ça nous est donné gratuitement par les plantes qui nous font de la photosynthèse, par le cycle de l'eau naturel. Et donc moi, j'aimerais bien me concentrer sur comment est-ce qu'on peut reproduire ces écosystèmes, qui sont des écosystèmes stables, à l'échelle du spatial. Comment est-ce qu'on peut faire une station spatiale internationale, mais au lieu d'avoir des machines et de la chimie qui font le recyclage de l'eau et de l'air, d'avoir des plantes, des microbes.
Un vrai écosystème à l'intérieur qui recycle... Qui recycle l'air, qui recycle l'eau, qui recycle les déchets.
C'est vraiment remettre l'homme à sa place dans les cycles des écosystèmes et non pas juste seul, entouré de machines, de métal et d'électronique.
Énorme projet. Enfin, on pourrait imaginer du coup que ça pourrait se traduire par des choses qui s'installeraient justement sur la Lune, par exemple.
À terme, moi j'aime bien dire, moi ce que je veux faire, c'est planter des forêts sur la Lune.
Et oui. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il me semble que tu aimerais justement monter un petit projet là-dessus sous forme associative cette fois-ci, du coup.
Alors, en fait, comme c'est un projet qui se veut fondamentalement désintéressé, ça n'a pas de sens pour moi de l'inclure dans une dynamique capitaliste d'une entreprise à profit. Pour ce projet-là, je travaille avec deux collaborateurs. On va construire une association qui s'appelle The Spring Institute for Forests on the Moon, aussi dit juste Spring, qui veut dire printemps en anglais. Et en fait, le premier jalon de ce programme, c'est ce qu'on appelle un CubeSat. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un CubeSat ?
Pas du tout.
Oui, moi je sais.
Vas-y, Didier.
C'est un satellite qui a une taille assez modeste et qui permet d'être lancé à très bas coût en orbite basse.
Voilà. C'est un format de satellite qui a été développé initialement pour l'universitaire. 10 cm par 10 cm par 10 cm. En objet de tous les jours, c'est pas plus grand qu'un téléphone, quoi. 10 cm. Et en fait, l'idée, ce serait de voir, est-ce qu'on peut remplir ce volume d'un terrarium? Donc, des terrariums, il y en a qui en ont chez eux. C'est des boîtes de verre, en général. Parfois, c'est des tubes ou des quoi que ce soit. Qui sont fermés hermétiquement, dans lesquels il y a des plantes. Et ces plantes-là, elles font l'intégralité de l'écosystème. C'est-à-dire qu'elles font la respiration, elles font la photosynthèse. Il y a des bactéries qui se chargent de dégrader certains éléments du système pour pouvoir redonner les nutriments à la plante à l'intérieur. Et en fait, la question, c'est est-ce qu'on peut prendre un terrarium qu'on trouve sur Terre, l'envoyer dans l'espace et qu'il survive ?
Et voir ce qui se passe dedans. Et j'imagine tout un tas peut-être de petits capteurs qui permettent de vérifier les paramètres dans l'espace, quoi, la température, la pression... L'hygrométrie et tout ça, quoi.
Alors ça, c'est un intérêt scientifique certain. Donc ça, c'est l'œil humain qui aimerait bien savoir est-ce que l'oxygène augmente ou pas, est-ce que les plantes meurent ou pas. Donc oui, on va le faire, mais c'est pas le cœur du projet. C'est le cœur du projet, c'est vraiment de dire, on a envoyé dans l'espace, en orbite, un système autonome,
entièrement autonome,
vivant. En fait, on est en train de faire une espèce de réplication de la Terre, mais à échelle miniature.
Énorme, quoi. Un écosystème extraterrestre, tout simplement. C'est ça, en fait.
Terrestre, extraterrestre.
La définition, c'est ça.
Un écosystème terrestre qu'on envoie.
Ce serait énormissime. Donc, c'est impressionnant. Ce serait énormissime de concevoir ça, justement, cette façon de voir, en plus, totalement, au final, désintéressé, puisqu'on est sur quelque chose d'associatif. Et de réaliser quelque chose de grandiose qui s'est encore jamais fait. Un écosystème autonome dans l'espace, ça s'est encore jamais fait réellement. Il y a déjà eu des choses qui ont été faites sur l'ISS, etc. Mais ça peut être quelque chose de vraiment palpitant, on va dire, et passionnant. On va suivre ça de près, en tout cas. Mais c'est pas la seule chose encore. Il y a d'autres choses à voir aussi. tu m'as parlé avant l'émission, de ce qui s'appelle les Fab Labs. Comme quoi, justement, pour créer ces concepts, avant de les envoyer dans l'espace, il faut faire d'abord des prototypes. On est d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, justement?
Oui, bien sûr. Dans tout projet d'ingénierie de grande ampleur ou de petite ampleur, en fait, il y a une phase qui est obligatoire, qui est la phase de prototypage. C'est-à-dire que c'est la phase où, en fait, on va prendre n'importe quoi qu'on a sous la main, que ce soit du carton, des Lego, de la pâte à modeler, en tout cas des choses physiques qui nous permettent très rapidement de modéliser le futur, en fait, et d'avoir une idée de à quoi ça peut ressembler. Évidemment, c'est pas ça qu'on envoie dans l'espace. Mais dans cette phase de prototypage, on a souvent accès à des imprimantes 3D, des coupes laser. Et ici, là, on ramène ça un petit peu dans le terroir dans lequel on se trouve. On n'a pas beaucoup accès à ce genre de choses. Mmh. À Paris, c'est facile. Aux États-Unis, c'est facile. Dans le Cantal, c'est pas facile.
Oui, il y a rien, presque.
Et en fait, quand j'ai parlé de ce projet à la mairie de Plot, dans mon village, il y a eu une réaction très vive et très soudaine et tout à fait positive pour essayer de m'aider pour obtenir les moyens qui permettraient de faire ce genre de prototypage. Mmh. Et en fait, on est en train de mettre en place, finalement, un espèce de Fab Lab, donc cet endroit où on peut faire du prototypage rapide, qui sera donc à Plot, ouvert évidemment aux associations comme celles que je porte, mais également en premier lieu au collège de Plot, et puis à terme on verra s'il y aura d'autres scolaires ou d'autres personnes que ça peut intéresser.
Ouais, intéressé. Donc pour rappel, hein, Plot c'est situé dans l'ouest Cantal, entre Mauriac et Aurillac, enfin au nord d'Aurillac, à une cinquantaine de minutes. Pour ceux qui ne sont pas du Cantal, il faut pouvoir se repérer. Voilà, et bien très bien, bon. Merci Louise. Merci. En tout cas, on te souhaite tout le bonheur du monde. enfin voilà, que tes projets puissent réussir. Et puis de toute façon, on suit ça de très près. On se retrouve hein, pour un épisode par mois, donc on a l'occasion de suivre ça de très 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 près. L'émission touche à sa fin. On va terminer par un mot, le mot de la fin, le mot d'aujourd'hui, c'est le mot sérendipité. C'est moi qui l'ai choisi. Pourquoi j'ai choisi ce mot, je ne sais pas, parce que j'adore ce mot. Vous savez ce que c'est que la sérendipité?
Je pense que c'est la peur d'avoir des roues qui sont pas serrées. Sérendipité.
Mes roues ne sont pas serrées. Genre, j'ai très peur. T'es sur l'autoroute, ça t'arrive ça, t'es calmé pendant un moment.
J'ai beaucoup de sérendipité. Alors,
la sérendipité. Alors, je vais vous lire quand même la définition officielle, hein, comme ça. Donc, c'est la capacité, aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité. Donc, par exemple, Fleming, quand il a découvert la pénicilline, il l'a découvert entre guillemets par hasard, c'est-à-dire que laissé moisir certaines choses.
Oui, c'est exactement. Il avait fait moisir et puis il a découvert ça.
Il a découvert, voilà, c'était resté moisi. C'était le mot de la fin. Nous vous souhaitons un joyeux mercredi, une très bonne journée. Il doit être pas loin de 10h, c'est l'heure de votre troisième café. J'espère que tout se passe bien. Nous vous souhaitons une bonne journée et surtout n'oubliez pas, on n'est pas des Einstein.
Mais tout est relatif.
Bonne journée.
Une émission radiophonique, scientifique, podcastique et radioactive.
On n'est pas du tout des Einstein.
Oui, tout est relatif.